Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marilyn Villard-Desbeaux. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Présidente fondatrice d'Origami & Co, grande spécialiste de la question des retraites. Vous allez nous éclairer tout à l'heure. À côté de vous, Philippe Trénard. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. Et Jean-Charles Simon. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Président de Propriété et Liberté. Alors je le disais, le premier sujet du jour, c'est évidemment le G7 qui a clôturé ses portes hier à Évian, avant le dîner spectaculaire à Versailles hier, où a été signé le protocole de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Alors je le disais, 9 textes, tous endossés par les chefs d'État et de gouvernement sur différents sujets. Mais surtout, je voulais qu'on s'arrête une seconde sur les grands déséquilibres mondiaux. Les membres du G7 se sont accordés sur le constat les États-Unis accumulaient des déficits qui n'étaient pas supportables, les Chinois des surplus qui se déversaient sur le monde entier, tandis que l'Europe avait un surplus d'épargne de son côté. Bon, premier mot d'abord, premier tour de table sur ce G7. Économiquement, évidemment il a été question de beaucoup de géopolitique, mais économiquement, est-ce que c'est une réussite, Jean-Charles Simon ?
Ben, je ne vois pas vraiment de choses concrètes, c'est rare d'ailleurs dans les G7, hein, mais je ne vois pas vraiment de choses concrètes.
Le simple fait de s'être mis d'accord et d'avoir des communiqués.
Déjà, avoir les États-Unis à la table, ce qui n'était pas complètement gagné d'avance,
et
c'était évidemment indispensable pour que c'est un peu de portée. Je pense que le problème de ces constats de déséquilibre que vous faites, il ne porte en fait aucune conséquence sur les attitudes des uns et des autres. C'est-à-dire que la Chine ne va pas s'arrêter en matière d'offensive commerciale et industrielle avec l'Europe. Elle est effectivement freinée par la politique de tarifs américaine qui elle-même est remise en cause par la justice. Mais fondamentalement, chacun reste dans son couloir de nage. Et du côté de l'Union européenne, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, on pense toujours à se dire, voilà, on est un peu victime de ceci, cela, donc il faudrait que nous-mêmes, on devienne un peu protectionniste potentiellement pour le faire.
On va y venir.
Contrairement à nos intérêts commerciaux de beaucoup de puissances qui réussissent bien, la France ne réussit pas bien, mais l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, d'autres réussissent très bien en matière d'échange extérieur de biens. Donc je pense que le sujet principal que l'Europe devrait regarder, c'est pourquoi elle met des règles, en fait, elle accuse de concurrence déloyale les autres zones, mais elle met elle-même des règles extrêmement dures sur ses producteurs, et elle devrait peut-être réfléchir à envisager d'assouplir un certain nombre de règles, parce qu'on se retrouve dans une situation paradoxale sur un certain nombre de sujets dans lesquels on importe des biens produits avec des normes sociales, environnementales qui sont
inférieures
à ce qu'on pratique, et donc qui sont impossibles à utiliser en France, mais on consomme bien ces produits en Europe tels quels. Et juste un mot sur l'épargne, je suis toujours un peu surpris quand on parle, ça vient d'ailleurs dans plein de discours, c'est dans le rapport Draghi, dans plein d'autres choses, de cette épargne, l'Europe a une épargne abondante. Les gens en parlent tout le temps.
Ça reste une région riche du monde.
30 000 milliards, mais les ménages américains sont deux fois et demi plus riches. Deux fois et demi plus riches. Donc on oublie que la quantité, le stock, hein, pas l'effort d'épargne des ménages, mais le stock.
Ah, ils ont plus de patrimoine, mais est-ce qu'ils ont plus d'épargne que les Européens, les Américains, qui consomment beaucoup plus et s'endettent beaucoup plus.
Oui, mais ils ont beaucoup plus de stock d'épargne parce qu'ils sont beaucoup plus riches, parce qu'ils investissent beaucoup plus à long terme.
Et oui, dans les marchés.
Parce qu'ils ont des retraites en capitalisation.
Et oui.
Et donc, ça, c'est un premier mot par rapport au thème de la fin. Mais ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Les ordres de grandeur, c'est deux fois et demi, trois fois plus aux États-Unis qu'en Europe, hein.
Philippe, un mot sur le G7
et
bilan.
Pour compléter ce que dit Jean-Charles, j'ai pas d'opposition majeure. Je dirais d'abord, oui, le G7 est un succès à certains égards, parce que tout simplement, il montre aussi un Donald Trump, non point différent, mais un Donald Trump qui accepte un tout petit peu de discuter avec ses alliés.
Oui,
j'entends, moi,
c'est un peu le retour, voilà.
J'entends
effectivement.
Deuxièmement, le constat des déséquilibres. Oui, c'est un constat, mais au fond, comme le dit Jean-Charles, où est la recette? C'est-à-dire, il n'y a pas une analyse des causes de déséquilibre. Les causes de déséquilibre, elles se trouvent aux États-Unis. Elles se trouvent parce que on peut pas distinguer le rôle du dollar du déséquilibre américain. Elles se trouvent en Europe. Comme l'a dit Jean-Charles, il y a quand même un problème. L'Europe épargne. Soyons attention, le gros de l'épargne des Français, c'est par exemple de rembourser une dette immobilière quand même. Mais ils épargnent, mais ils investissent surtout pas en Europe, ils investissent ailleurs. Pourquoi n'est-ce pas intéressant d'investir en Europe? Donc là, on se tourne.
Bah, c'est moins rentable que d'investir aux États-Unis, quoi.
De régulation, la rentabilité, pas la même. Quant à la Chine, elle épargne, parce qu'elle a un déséquilibre démographique. Je ne sais pas très bien comment on le corrige. Et deuxièmement, parce qu'elle fait au fond ce dont on rêve de faire beaucoup d'Européens, c'est de subventionner à outrance des industries, une industrie automobile, je ne sais pas quoi, des trucs dont on ne sait pas très bien si à terme ils resteront ou non profitables. Donc ce qui manque au fond par derrière, c'est un peu l'analyse. Et ce qu'on verrait bien dans ce G7, c'est de se tourner à un moment donné vers le FMI et de dire au FMI, faites-moi maintenant. Alors le FMI a donné l'essentiel quand même. Si on rassemble les différents documents de travail du FMI, on a le bilan. Mais faites-nous un petit rapport, pédagogique, qui dise quelles sont les sources, même pas les recettes, mais les sources du déséquilibre. Car une fois que vous les avez identifiées, bien évidemment, il est beaucoup plus aisé de parler des recettes. Et comme Jean-Charles, je ne pense pas que le protectionnisme qui permet aux perdants de survivre soit la bonne recette pour être sûr de croître.
Bon, ça, on va y venir, hein, parce que c'est le sujet du Conseil européen qui se tient aujourd'hui même à Bruxelles. Un sommet important, les Allemands, indiqué le Financial Times hier, se rapprochent de la position des Français sur la mise en place de barrières protectionnistes. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Marilyn Villard-Debeau, vous êtes une grande spécialiste des retraites, conseillère, oui. Mais quand vous regardez le G7, quelle image vous en avez ? Qu'est-ce que vous en tirez ?
Je rejoins dans les grandes lignes les propos de ces messieurs. Moi, je reste très terre à terre pour discuter quotidiennement avec des chefs d'entreprise. C'est très éloigné, évidemment, des préoccupations. Je vous rejoins sur ce que vous avez dit au début. C'est des grands discours. Il peut y avoir des répercussions concrètes dans la vie des chefs d'entreprise, mais à 10 ans ou à 15 ans. Voilà. Deuxième point, c'est positif effectivement d'avoir plutôt un accord, en espérant que ce cher président américain ne change pas d'avis dans 48 heures.
Oui.
Mais c'est plutôt positif, voilà. Mais c'est très éloigné du quotidien des chefs d'entreprise.
Qui doit faire le premier pas, Jean-Charles, pour rééquilibrer ? Est-ce que vous voyez un grand bloc ? Parce qu'on est quand même dans une guerre mondiale économique.
On est avec des blocs antagonistes, pas coopératifs. Il fut un temps où, avec les États-Unis, il y avait une capacité de dialogue potentielle, mais qui était déjà compliquée. Hein. Il ne faut pas se leurrer sur les administrations précédentes.
Oui.
Elles semblaient beaucoup
toujours
plus,
une domination américaine.
Elles semblaient beaucoup plus rationnelles et prévisibles. Mais l'utilisation du dollar qu'évoquait Philippe était quand même déjà largement une arme que les Européens ne pouvaient pas infléchir. Hein. Les Américains faisaient un peu...
C'est l'outil de l'extraterritorialité américaine, le dollar.
Et du sort de ce qu'on appelle privilège exorbitant. Hein. Voilà, la situation fonctionnait bien pour eux. Ils en abusaient parfois. Je pense que donc, il faut intégrer cette logique de bloc antagoniste. D'ailleurs, la Chine n'est pas à la table du G7 et elle ne se sent évidemment engagée par rien du tout de ce qui peut être dit. Donc, il faut être bien clair. Quand vous voyez, par exemple, ce que font les banques chinoises en matière de crédit au secteur économique.
Oui.
Donc c'est subtil parce que c'est pas des aides officiellement de l'État, mais en fait, on déverse des montagnes de crédit avec des règles bancaires qui sont évidemment pas du tout celles du comité de Bâle pour les banques des autres pays. Et donc, on a des logiques vraiment de d'armes qui sont pas loyales, mais ça, il faut en prendre son parti, au sens où, à part se renfermer complètement, ce qui me semble vraiment destructeur dans la situation qui est celle de l'Europe. L'Europe a besoin d'être ouverte. Alors, elle est ouverte et elle a l'impression qu'effectivement, elle voit disparaître un certain nombre de ces acteurs.
Eh oui, sérieusement attaqués, là.
Parce qu'ils ne peuvent pas lutter face à ces acteurs d'autres zones qui n'ont pas les mêmes règles. Moi, je pense que le point fondamental, et qui est en filigrane de ce qui était dit, c'est il faut voir comment on peut être compétitif pour produire dans certains domaines en Europe. On ne va pas produire dans tous les domaines en Europe, mais on peut être très bon dans certains domaines. Mais pour ça, il faut repenser...
C'est le grand sujet autour de l'IA, ça, en ce moment. Quelle brique occuper dans la chaîne de valeur ? On ne sera pas présent partout.
Du modèle fiscal et du modèle social. L'Europe doit quand même se rendre compte, si je puis dire, qu'elle vit très bien par rapport à ces autres zones.
Ouais.
Elle vit très bien, elle dépense beaucoup.
On l'oublie parfois. Hein.
Ben oui, mais quand vous avez plus de 30% de dépenses de protection sociale obligatoire dans le PIB, et que les autres zones sont à deux fois moins, et ça pèse. Il faut bien que ça soit payé par quelqu'un, et c'est payé par les agents économiques, par les entreprises et par les salariés.
Philippe, dernier mot sur ces déséquilibres entre.
Dernier mot. Où on est dans l'attitude de l'Europe qui veut être plutôt coopérative, on est dans des stratégies non coopératives. À ce moment-là, il ne faut plus parler d'ordre international. Nous devons être dans des stratégies plutôt coopératives. Certes, la Chine escalée, nous ne la changerons pas. Ça, alors là, je demande à voir qui va changer la Chine.
Bien sûr.
Nous apprenons tout d'un coup que les États-Unis ne sont pas nécessairement de notre côté.
Oui.
Quant à les changer, ça va être difficile. Donc nous devons voir que quelque part, c'est gentil de menacer de sanctions. N'oublions pas que la moitié des États de l'ONU sont sous sanctions occidentales. Donc je ne sais pas très bien comment vous faites un accord sur un ordre international avec la moitié des gens auxquels vous avez donné un coup de pied au cul. Et donc, je pense que par rapport à la Chine notamment, la solution n'est pas et n'est certainement pas de mettre des droits de douane. Essayons d'abord de profiter du fait qu'ils vendent leurs produits, pas à leur coût de production. Les grands perdants, c'est eux, n'est-ce pas ? L'industrie, la majorité de l'industrie automobile chinoise est en déficit ou est à la limite du déficit.
Mais ça, c'est darwinien, c'est le modèle économique chinois.
Oui, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Ça ne va pas durer indéfiniment. Et donc, quelque part, mettons en place des coopérations. Et surtout, l'Europe ne peut pas se permettre, étant donné l'attitude de Donald Trump et des États-Unis aujourd'hui, ne peut pas se permettre de se mettre à dos, de mon point de vue, la Chine. N'oublions pas, la France du XVIIIe siècle réfléchit à ce point par rapport à la Prusse et à l'Autriche.
Oui.
C'est le fameux renversement des alliances.
Oui. Donc Philippe Trénard, assis à la table du Conseil européen qui se tient aujourd'hui à Bruxelles, pour savoir si oui ou non il faut endosser les armes, les nouvelles armes proposées par la Commission européenne, à la fois pour répondre aux surcapacités chinoises, mais il y a aussi le paquet numérique de défense qui est arrivé il y a quelques jours, et donc pour répondre aux Américains du côté de la défense, vous dites non. Emmanuel Macron propose une section 303 qui est un peu l'arme ciblée, ce bazooka tarifaire pour répondre à la guerre commerciale. Vous dites non.
Je dis non. Si on était à l'origine du progrès technique, j'irais peut-être oui, mais en fait le progrès technique, nous allons l'acheter ailleurs et en dehors de France. Donc nous avons besoin de bonnes relations avec tous ces pays pour pouvoir développer le progrès technique dans notre pays, en Europe.
Oui, en même temps, pensez à la guerre commerciale absolument de partout.
On a déjà ouvert la porte à la Chine.
Le chef d'entreprise dans l'industrie, ce que vous pouvez croiser, qui voit les surcapacités chinoises se déverser sur l'Europe, puisque les États-Unis ont fermé leurs portes. Eux, ils disent quoi ? Ils veulent la protection ou pas ?
C'est difficile, oui. Oui, une certaine protection, effectivement. Quand on parle de Chine, je pense aux véhicules, à l'automobile, qui ont déjà inondé quand même pas mal le marché français. Donc, les industries ou l'automobile française, je ne crois pas qu'elle se porte très très bien.
L'Union européenne s'est tiré les balles dans le pied toute seule, dans beaucoup de sujets. Personne n'obligeait au Green Deal, avec cette échéance de 2035 sur les modèles thermiques. On était les leaders mondiaux des modèles thermiques de plus en plus propres. Donc, on avait un avantage compétitif sur ces voitures thermiques. Et on s'est nous-mêmes mis dans une situation dans laquelle on a obligé nos constructeurs à dire « Non, maintenant, il faut faire du tout électrique. Oui. Parce que sinon, vous allez avoir des amendes énormes parce que votre parc de production, il est
métro. » Il y a un petit sujet environnemental, Jean-Charles Simon.
Mais justement, on est les seuls. C'est là où il y a vraiment une naïveté européenne, pour moi, critique. On est la plus basse zone d'émission dans ces trois grandes...
On est les meilleurs de la classe.
On est celle qui se met les normes les plus dures.
Les plus irréalistes.
Et pour un sujet qui est un sujet qui n'est pas un sujet de pollution locale, qu'on protège contre les pollutions locales, ça c'est très légitime pour les citoyens européens, mais là on parle d'un enjeu mondial. Le réchauffement, c'est pas, les gens l'oublient souvent, mais le CO2, c'est un sujet mondial. Si j'émets plus rien chez moi, mais que les autres émettent de plus en plus, il fera toujours plus chaud chez moi. Ça change rien. Donc ça, c'est vraiment une erreur critique. Et une autre erreur critique dans un autre domaine, dans le numérique, pour moi, la multiplication des réglementations. Quand vous voyez un truc comme le RGPD, ça parle à tout le monde, parce que tout le monde se tape tous les jours de dire que j'accepte
le règlement général sur la protection des données personnelles.
J'arrive sur un site, je dois accepter les cookies. Ce truc-là, tout le monde le dit aujourd'hui avec du recul, ça a été une super arme pour les GAFAM versus toutes les boîtes innovantes européennes qui se sont tapées un truc qui était plus petit, donc qui a eu un truc plus coûteux en termes de coûts fixes que les autres et qui ont été plus affectées par les nouvelles régulations européennes que par que les concurrents américains. Donc en fait, l'hyper-régulation européenne...
Je vous coupe Jean-Charles Simon, mais qui doivent appliquer le RGPD quand elles s'exercent le vieux continent. Nos données ne sont-elles pas le carburant de l'avenir? Le marché pétrolier de l'avenir. Et donc, c'est important de les protéger.
Elles ont un marché domestique énorme sur lequel elles n'ont pas beaucoup de régulation. Donc, elles arrivent sur le marché européen. Bon, c'est pas un gros sujet. Elles sont beaucoup plus grosses que les petites start-up européennes.
Donc, on est
les champions de la régulation qui nous fait du mal. Et ça, je pense que la Commission européenne doit vraiment y réfléchir.
Est-ce que je peux ajouter
Philippe Trénard,
vraiment dans le sens de Jean-Charles?
Oui.
Nous pourrions avoir les compétences pour assurer la protection des données individuelles en Europe. Mais simplement, pour pouvoir avoir justement cette compétence technologique de pouvoir utiliser les données personnelles et de les protéger, il faut d'abord commencer par les utiliser. Conclusion, oui. La plupart des boîtes qui utilisent des données personnelles, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Puisqu'on ne peut pas les utiliser en Europe, eh bien tout le savoir sur la protection des données individuelles, il n'est plus en Europe. Il est aux États-Unis. C'est tout, c'est simple. Donc, aux États-Unis, vous pouvez utiliser des données personnelles et vous pouvez protéger, et vous avez toute la technologie. En Europe, vous êtes à l'âge de pierre, vous n'utilisez pas les données personnelles, et d'ailleurs, vous ne savez pas, vous n'avez pas les technologies, vous ne les générez pas en Europe, vous devez les acheter, n'est-ce pas, à des Européens qui sont délocalisés aux États-Unis pour les produire et les offrir.
Vous nous dites que nos données personnelles à nous, citoyens européens, enfin, c'est un petit sujet quand même, la protection des données personnelles.
Absolument. Mais dans le monde
entier, sujet politique et républicain. Mais que nos données sont parties d'ores et déjà en Chine et aux États-Unis.
Alors, vous avez des universités qui vous offrent la possibilité d'accès aux données personnelles européennes à partir des États-Unis, voire de la Chine. Bon, alors,
donc
évidemment,
c'est
ça pose des problèmes juridiques. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est la capacité à les protéger, de mettre en place des technologies qui vous permettent de protéger les données personnelles que vous utilisez et d'assurer la protection qu'attend le consommateur de l'utilisation de ces données, oui. En même temps que le service qu'il attend aussi de l'utilisation de ces données. Quand je vais sur Doctolib, il y a des données personnelles qui sont utilisées.
Et oui,
je suis bien content qu'elles y soient utilisées à ce moment-là.
Là, c'est pas facile, puisque nous, on utilise des données personnelles.
On
gère les dossiers retraite des clients, donc numéro de sécurité sociale, pour se connecter aux espaces France Connect, impôts.gouv. Donc, c'est un travail de tous les jours, de protéger, en tout cas, ces données, et sur toutes les sociétés qui manipulent des données, alors plus ou moins confidentielles, suivant le métier, c'est une alerte de tous les jours.
Oui. Mais la technologie n'est pas en Europe. Les vrais centres experts en technologie de la protection
sont
aux États-Unis, mais c'est secondaire. Non, honnêtement, très honnêtement.
Mais c'est vraiment quelque chose de transversal. C'est ça qui est fascinant. Je me suis occupé de la place financière de Paris ces dernières années. Le nombre de réglementations qui ne sont que européennes.
On en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Oui.
Mais c'est pas en train de changer, Jean-Charles Simon. Là, ce qu'on n'a pas
backlash,
avec la nouvelle commission, les omnibus de la commission sont là pour simplifier.
On est allé un peu trop loin. On est allé un peu trop loin, donc on va réviser. Mais on continue, par exemple. Je prends l'exemple de la CSRD, la directive sur le reporting des entreprises en matière environnementale. On continue d'être dans une logique qui n'est suivie par aucun autre continent au monde. Et pour l'instant, les États-Unis ne font même rien du tout. Donc, c'est encore
plus aux États-Unis, c'est
les autres pays vont sur des logiques plus légères. Et nous, on impose aux entreprises européennes, en étant d'ailleurs obligés, à cause de la pression de l'administration Trump, d'exonérer les groupes qui ont la taille pour rentrer dans ces réglementations, mais qui sont extra-européens, parce que c'est une vision normative qui est propre à l'Europe. Et ça, je pense que c'est le principal travail. Elle a commencé, effectivement, depuis 2024, avec le rapport Draghi, avec le coup de semonce qu'a été l'élection de Donald Trump pour l'Union européenne. Elle a commencé à se poser des questions et à réviser, mais on est très très loin, d'ailleurs Mario Draghi l'a redit dans plusieurs discours, on est très très loin de la vitesse et de l'ampleur à laquelle il faut se reposer les questions de compétitivité de l'Union européenne. L'important, c'est de voir est-ce qu'on est un endroit attractif pour produire. On a plein d'atouts, et notamment le fait qu'on ait un grand marché intérieur développé, avec donc beaucoup de pouvoir d'achat des ménages. Donc on a cet atout fondamental. Si on est...
Est-ce que c'est suffisant d'être un marché de consommateurs pour rester une puissance mondiale ?
On peut donner envie de produire en Europe, mais pour ça, il faut changer pas mal de choses. Et quand vous voyez d'ailleurs aujourd'hui où les Européens allouent leur épargne, ils les louent malheureusement en partie en dehors d'Europe.
Ah, il y a 300 milliards qui partent aux États-Unis.
Ils allouent en partie en Europe, pas par hasard. Pas parce que c'est rigolo d'aller investir aux États-Unis, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a des taux de rendement à aller chercher qu'ils n'arrivent pas à avoir en Europe. Donc ça, c'est quand même un sujet central. Et tant que l'Europe ne fera pas son examen de conscience et voudra plutôt essayer de donner des leçons aux autres pour que les autres la copient, ça marchera pas bien, parce que justement les autres sont complètement préoccupés par leur intérêt propre, et leur intérêt propre, c'est d'être plutôt passager clandestin de ces normes européennes.
Le symbole de ce que dit Jean-Charles et que je partage, c'est simplement la productivité par tête, la productivité par travailleur en Europe. C'est-à-dire vous pouvez faire les dessins que vous voulez, les réglementations que vous voulez, vous êtes perdant si votre productivité par tête baisse en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport aux États-Unis. Or, c'est,
oui, c'est le cas depuis des années.
Hein. Depuis le début des années 2000.
Oui.
Donc, la solution, ça, elle commence par là. C'est comment j'accrois la productivité par tête. Et à partir de là, eh bien, vous vous posez la question de la réglementation, vous vous posez la question de la fiscalité, et vous vous posez la question de la pertinence de notre système social, c'est-à-dire est-il bien dessiné, est-ce qu'il vient bien en aide à ceux qui en ont besoin, et est-ce qu'il incite bien ceux qui sont en mesure de travailler, à travailler et à accroître les richesses.
Bon, je voulais un petit mot pour finir sur l'Allemagne, simplement le revirement, hein, c'était l'info du FT hier. J'en parlais en début d'émission, l'Allemagne qui serait prête à rejoindre la France sur la mise en place de tarifs douaniers. Ça pose la question, moi je trouve, de l'Allemagne au cœur de l'Europe, qui était très influencée par les constructeurs automobiles allemands, Mercedes, BMW, Volkswagen, qui va ouvrir des usines en Chine pour revendre les véhicules en Europe après. Est-ce que c'est un game changer, cet accord?
C'est en tout cas intéressant. Ça montre que ce qu'on attendait en fait au moment de l'élection de Friedrich Merz, c'était une Allemagne beaucoup plus dominatrice, si je puis dire, de l'Union européenne, ne se matérialise pas, en partie à cause des difficultés de Friedrich Merz.
Oui, de politique interne.
Et donc en fait, on voit effectivement une petite bascule, une sensibilité sur laquelle surfe l'AfD en Allemagne, hein, beaucoup. Extrême droite allemande sur le thème de l'Allemagne est en train de se faire envahir et de se faire détruire son appareil industriel qui était légitimement sa fierté et son atout numéro un. Donc c'est un changement effectivement important parce que l'Allemagne était traditionnellement effectivement opposée à toute mesure coercitive et de réplique aux politiques commerciales des autres grands ensembles. Est-ce que ça ira loin? Je suis pas sûr parce qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup d'autres pays dans l'Union européenne qui n'ont pas cette volonté-là, qui sont des pays encore une fois
qui ont beaucoup à perdre.
Exactement. Eux, ce sont des pays qui ont des excellents commerciaux.
Oui.
Hein, là, c'est pas le cas de la France, mais c'est le cas de plusieurs pays européens.
Bon.
Peut-être, oui.
Philippe.
C'est un des soucis, comme vous le savez, des rencontres d'Aix-en-Provence du cercle des économistes qui va mettre ce sujet vraiment.
De 3 et 4 juillet.
Voilà, absolument. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que l'Allemagne, là, a un changement d'attitude. Mais faisons attention. D'abord, c'est assez récent. C'est un changement de Merz. La vraie question de l'Allemagne, c'est comment l'Allemagne pourra conserver ses liens avec les États-Unis, parce qu'on ne peut pas imaginer une Allemagne qui se détache des États-Unis, il ne faut pas rêver. Pour l'Allemagne, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ça reste les États-Unis, on pourra faire toutes les opérations imaginables, ils ne changeront pas ce point de vue. Et inversement, en revanche, s'européaniser. Alors, on voit bien qu'il y a un défi, parce qu'actuellement, en matière de défense, tout d'un coup, certes, l'Allemagne parle d'un côté de tarifs douaniers, et on se dit, tiens, il se rapproche d'autres Européens qui parlent de tarifs douaniers.
Notamment
en matière de défense, elle pense la défense allemande et l'industrie allemande.
On a vu l'échec du SCAF.
Alors qu'il faudrait penser, et on le voit bien, même les Français, même Emmanuel Macron, ils pensent tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Allemands? C'est pas immédiatement la pensée allemande. Et là, on a un vrai sujet, un vrai défi. Mais là aussi, je pense qu'on revient d'ailleurs au sujet que nous avons évoqué de prime abord, c'est-à-dire l'efficacité du travail en Europe, l'efficacité de la fiscalité, etc. Ça fait partie, en tous les cas, de la solution au problème et d'une meilleure coopération à l'avenir en Europe.
Alors que Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain, vient d'annoncer un réexamen de la présence militaire américaine en urgence. L'urgent vient de tomber sur l'AFP. On parlait industrie. On va voir que c'est peut-être l'industrie qui se porte le mieux, en tout cas qui se porte pas trop mal, moins mal que prévu. En France, c'est la note de conjoncture de l'INSEE qu'on va décrypter ensemble après une courte pause publicitaire. Et puis on reviendra sur ce livre blanc, l'AFG, l'Association Française de Gestion Financière, qui propose une boîte à outils des voies et moyens pour instaurer un étage de capitalisation, de retraite par capitalisation. Ce sera évidemment l'un des grands débats de la présidentielle 2027. On va passer en revue tout ça ensemble d'ici une petite minute. Restez avec nous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.